Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue en ce mois de mai avec ses jours fériés, ses ponts et son carnet de région qui ne fait pas le pont. Pendant 3 semaines, c'est Radio Lodève qui assure la rédaction de ce magazine d'actualité proposé chaque semaine par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Au sommaire, direction, le grand site de France Saint-Guilain, Gorge de l'Hérault, où la saison touristique est bien lancée. Nous parlerons de l'indépendance de la Catalogne, un sujet abordé récemment à Carcassonne par les amis du monde diplomatique. Nous irons aussi du côté de Pézenas, où se déroule actuellement un festival de chansons, le Printival Bobby Lapointe. Après la chanson française, la poésie, après Pézenas 7, avec dans ce carnet la présentation du prochain festival de poésie, le festival Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée. Enfin, vous découvrirez le bouti, cette pratique ancestrale de broderie en relief qui a son salon national. Il se tiendra au mois de mai dans le Gard, à Caissargues. La saison touristique est bien lancée sur le grand site de France Saint-Guilain, Gorge de l'Hérault, avec l'ouverture de la maison du site au Pont du Diable et de la maison de la poterie Argileum à Saint-Jean-de-Fosse. Le week-end dernier, ce sont les navettes gratuites qui ont refait leur apparition sur le territoire. On fait le point sur cette saison avec Odelise Teul, responsable accueil à l'Office de tourisme intercommunal.
Oui, le bilan 2013 est satisfaisant avec plus de 58 000 visiteurs. On enregistre certes une petite baisse par rapport aux 2 années précédentes, mais il faut le dire, elles avaient été fortement dopées par des émissions télévisées, Des Racines et des Ailes, Le Village Préféré des Français, qui vraiment avait mis un coup de projecteur phénoménal sur notre territoire et avait vraiment dopé la fréquentation. Donc c'est vrai qu'une année satisfaisante au regard aussi de la fréquentation globale de la région. Et on se prépare donc pour une nouvelle saison qui s'annonce plutôt positive. En tout cas, on travaille. L'équipe de l'Office du tourisme mène tout au long de l'année de nombreuses actions de promotion. Et voilà, on essaie de rendre attractif et dynamique notre territoire qui regorge de richesses. Donc c'est vrai que c'est quand même assez facile de le valoriser. Mais c'est vrai qu'il faut toucher les bons publics et les bonnes cibles. De toute façon, notre objectif est de travailler sur les ailes de saison. Donc pour nous, la saison démarre au mois d'avril et s'achève fin octobre. Et c'est d'ailleurs pour cela que la maison du site au Pont du Diable va réouvrir ses portes, ainsi qu'Argileum, le musée de la poterie à Saint-Jean-de-Fosse, et puis notre service de navette touristique gratuite qui dessert le Pont du Diable et Saint-Guilain-le-Désert, qui elles aussi vont entrer en fonctionnement à partir du 19 avril prochain.
Et au cœur du territoire du grand site de France, la maison du site, un passage devenu incontournable aujourd'hui pour tous les visiteurs.
Stratégique, symbolique aussi, puisque le Pont du Diable relie le territoire, puisqu'il est traversé par ce fleuve Hérault. Donc c'est un endroit époustouflant de beauté qui, de toute façon, a toujours accueilli beaucoup de monde, parce que c'est un lieu de villégiature et de baignade formidable. Et c'était une chance que de pouvoir aménager ce lieu, y accueillir les visiteurs, de façon à les informer et puis à les renvoyer sur l'ensemble du territoire, parce que c'est vrai que on a un territoire extraordinaire de diversité. Évidemment, Saint-Guilain-le-Désert en est certainement le phare, mais il y a tellement de choses à découvrir sur ce territoire. Et l'idée, d'accueillir ces visiteurs, de les renseigner. Et vous savez, nos métiers du tourisme ont beaucoup changé. Il y a une dizaine d'années, on diffusait de la documentation, on renseignait certes, mais on parlait d'agents d'accueil. Aujourd'hui, on parle de conseillers en séjour. Et vraiment, la valeur ajoutée, quand on vient dans nos offices du tourisme, c'est malgré le déploiement des outils numériques qui sont essentiels, formidables, et l'humain, le travail des conseillers en séjour qui ont une parfaite connaissance du territoire, c'est la valeur ajoutée et c'est vraiment cette notion de conseil que nous essayons de mettre en avant.
Et sachez que l'Office de tourisme intercommunal, il a mis en place cette année, ça a débuté depuis le mois d'avril, un accueil personnalisé le lundi sur rendez-vous. Ça se passe à l'antenne de Gignac. Il s'agit d'aider les gens, les visiteurs, à organiser leur séjour en vallée de l'Hérault. On parle maintenant de l'indépendance de la Catalogne. Le thème a été abordé récemment dans une soirée spéciale des Amis du Monde diplomatique. C'était à Carcassonne. Le journaliste Jean-Sébastien Morat nous fait un condensé de son exposé.
La société catalane est véritablement le moteur de cet indépendantisme et qu'il y a un ensemble d'initiatives populaires, surtout depuis 2012, les territoires libres catalans qui est cette fédération de communes, le poids de l'Assemblée nationale catalane qui est une association qui milite, qui compte 30 000 membres et qui milite pour l'indépendance de la Catalogne et pour l'organisation et la tenue d'un référendum. Et j'ai essayé d'aborder cette question, montrer comment à partir de 2010, la question de la souveraineté cesse d'être une question exclusivement liée à la Generalitat, c'est-à-dire la représentation catalane à la communauté autonome, mais qu'elle a vraiment été portée par la société civile et que finalement en Catalogne, la lutte pour l'indépendance correspond à ce qu'on appelait autrefois vraiment la lutte des masses, c'est-à-dire qu'elle se ressent dans tous les pans de la société. Et puis après, moi, il me semblait important d'écailler des évidences, c'est-à-dire le fait que non, c'est pas vrai, les Catalans ne sont pas omnibulés par l'indépendance à cause de la crise des subprimes. On voit que le mouvement souverainiste et nationaliste, surtout, et l'identité catalane revient de très loin. Certains la font remonter au IXe siècle, mais en tout cas, elle est très très enracinée dans la langue et elle est aussi inscrite et enracinée dans l'histoire, notamment la perte de souveraineté au XVIIIe siècle, la guerre civile, la révolution industrielle, qui véritablement l'époque n'a polonienne qui singularise l'identité catalane et l'identité espagnole.
C'était un sujet proposé par Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le printival Bobby Lapointe a débuté mercredi à Pézenas, un festival de chansons à texte qui se déroule jusqu'à dimanche soir dans la ville natale de Bobby Lapointe avec la chanteuse Juliette comme marraine et invitée d'honneur de cette 15e édition. Le printival défend et promeut la chanson auprès du public depuis de nombreuses années. Il propose pour la deuxième année consécutive des rencontres dédiées aux professionnels du secteur, notamment au sujet du développement des artistes. Ce que nous explique l'administratrice du festival, Amandine Vernin, au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Le but de ces rencontres pro, c'est vraiment de favoriser la rencontre entre les artistes et les programmateurs qui viennent généralement sur la semaine sur le printival. Il est très difficile pour les artistes, surtout en milieu, en région, d'avoir accès et de rencontrer des programmateurs de festivals qui peuvent se trouver à l'autre bout de la France. Avec Dany, on a souhaité favoriser ces rencontres-là par le biais de ces rencontres. La journée de cette année, ça se déroulera donc sur la journée, avec un temps vraiment dédié sur une thématique particulière qui est le développement d'artistes.
C'est-à-dire
Les développeurs d'artistes, ce sont des personnes qui œuvrent, je dirais, dans l'ombre à favoriser l'immersion, le développement des projets artistiques qu'ils défendent. Essayer de trouver des partenaires tels que des tourneurs, favoriser leur diffusion et trouver des dates, de trouver un distributeur pour leurs CD, leurs albums soient le plus vendus et disponibles au niveau national. Et aussi des attachés de presse pour favoriser la communication et la médiatisation de ces projets. Donc le premier temps de 10h à midi sera essentiellement dédié à ça avec plusieurs intervenants.
Une journée professionnelle qui est uniquement dédiée pour le secteur de la chanson française en région ou c'est plus large vu que le printival défend la chanson française ?
Alors je dirais sur la chanson à texte, pas forcément une spécificité sur une esthétique qui peut très bien être du hip-hop, du rock. Nous on défend principalement le principal défend principalement la chanson à texte, donc ce sera particulièrement des projets de chansons.
Je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour. Comprend qui peut, comprend qui veut.
Cette journée dédiée aux professionnels a lieu ce samedi soir au théâtre historique de Pézenas. Côté chanson, le printival Bobby Lapointe propose ce samedi soir Agathe Zebouz, Erwan Pinard et Didier Vampas. Après la chanson française, place à la poésie. Après Pézenas, direction 7. Du 18 au 26 juillet prochain, nouveau rendez-vous de la découverte de la poésie méditerranéenne contemporaine. Une invitation au voyage, à la découverte des différentes cultures, pays qui nous entourent. C'est le festival Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée. Cette année, 650 événements vont rythmer cette folle et longue semaine à 7, de 10h du matin jusqu'à minuit. Sieste poétique à l'ombre ou alors sur de vieux gréements accompagnés de musiciens et de poètes. Rencontres, spectacles et différentes animations seront au rendez-vous, ce que nous explique la directrice de ce festival, Maïté Vallès-Bled, au micro de RCF Maguelone Hérault.
C'est une deuxième histoire dans l'histoire du festival créé par une équipe. Il s'est installé dans cette ville en 2010, après avoir été dans un autre point du département. Et lorsqu'il s'est installé à Sète, nous avons ajouté au nom du festival le sous-titre « De Méditerranée en Méditerranée », qui implique à la fois une idée de provenance de l'ensemble des poètes invités, mais également une idée d'itinérance d'une Méditerranée à une autre. Et c'est ainsi que, depuis 2 ans, en même temps que Sète est devenu le port d'attache du festival, nous proposons d'autres éditions dans d'autres pays de la Méditerranée.
Alors, c'est la 5e édition à Sète pour ce festival Voix Vive. Est-ce que Sète est une ville de poésie déjà ?
Oh, bah oui, Sète est une ville d'art et de culture, fortement inscrite dans cette tradition. Sète est la ville de Paul Valéry, elle est aussi la ville de Georges Brassens et de nombreux autres artistes, qu'il s'agisse du théâtre avec Jean Villard, ou des arts plastiques avec Agnès Varda, Pierre Soulages, ou toute la génération de la figuration libre, et des artistes actuels qui sont très présents sur la scène internationale contemporaine.
Qu'est-ce que le public pourra découvrir comme genre de poésie durant ce festival en juillet ?
Le festival est ouvert à toutes les formes de la poésie contemporaine. Toutes les tendances, tous les mouvements de la poésie contemporaine sont représentés dans l'ensemble des pays. Nous accueillons des poètes de peu moins de 40 pays, c'est-à-dire tous les pays de la Méditerranée, pour chacun de ces pays, des auteurs qui ou bien ont une carrière très largement inscrite derrière eux, mais aussi des jeunes poètes, des poètes de la nouvelle génération, qui sont l'expression d'une nouvelle écriture. Et je pense notamment à la poésie dans certains pays du monde arabe, où une modernité dans les sujets, dans l'écriture, est actuellement très présente.
Alors, quelles sont les nouveautés par rapport à l'an dernier ?
Bien, par rapport à l'an dernier, c'est d'abord l'ensemble des invités, puisque si le festival est construit selon un concept d'identité de rencontre, de lecture, de type, si vous voulez, de lecture, de rencontre proposée, à l'intérieur de chacune de ces manifestations, ce sont les invités qui ne sont pas les mêmes. Et nous accueillons, comme chaque année, d'immenses noms de la poésie méditerranéenne contemporaine. Et quand je dis méditerranéenne, il faut entendre poésie internationale, car des figures telles que Nouri Al-Jara, par exemple, ou que Salah Faik pour l'Irak, sont des figures qui représentent la poésie dans le monde entier.
Alors, il faut rappeler qu'il y a la poésie, mais aussi il y a l'importance du livre dans ce festival.
Alors, l'importance du livre, oui, nous accueillons plus d'une centaine d'éditeurs qui sont représentés donc sur la place du livre, la place du Pouffre, qui se situe en face de la mairie et qui devient le temps du festival, la place du livre. Et les éditeurs sont très fortement inscrits dans la programmation proposée par le festival, d'une part par le nombre des manifestations qui se déroulent sur cette place des éditeurs. Il y en a une dizaine par jour, 9 ou 10 par jour, pour une amplitude horaire d'ouverture du marché de à peu près 10 ou 11 heures chaque jour. Ils sont également inscrits de par la nature des manifestations qui leur sont proposées. Par exemple, un poète et son éditeur, et par les plages horaires qui leur sont spécifiquement réservées, avec, par exemple, les éditeurs proposent une plage de 2 heures quotidiennes dans laquelle ils peuvent eux-mêmes construire leur propre programmation à partir des poètes de leur catalogue.
Où vont se dérouler exactement les spectacles de poésie ?
Les spectacles se déroulent alors d'une part au Théâtre de la Mer, Et également dans le haut du jardin du château d'eau, où nous construisons une aire théâtrale en plein air.
Ce sont des lieux un petit peu, on va dire, où la poésie peut-être prendra un autre tournant, une vraie signification.
De toute façon, l'ensemble des spectacles ou des concerts programmés par le festival souligne un lien manifeste entre un texte et sa mise en musique, ou son interprétation musicale ou chantée. Ce sont à peu près les fondements qui président à la programmation, avec une mise en valeur des différentes cultures invitées par le festival. C'est le cas notamment du concert avec Norsa Fandlani, qui interprète un récital à la fois autour de la figure de Barbara et de la figure de Férouz. Et c'est cette à la fois identité forte des cultures, cette mixité, c'est s'inscrit évidemment dans le concept du festival.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Madame Vallès-Bled pour ce festival?
La possibilité de pouvoir continuer de se développer en défendant ce qu'il essaie de défendre, c'est-à-dire un espace, des espaces le plus largement ouvert. Ce que l'on peut constater quand même, c'est que la réponse du public, qui est forte, qui est nombreuse et qui est fidèle, est un argument de poids face à tous ceux qui ont décidé d'accompagner ce festival et continuent de l'accompagner.
C'était un sujet proposé par Cédric Combé et RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
On termine ce magazine avec le Bouty à l'honneur en ce mois de mai dans la région. Cet art créatif a une longue histoire dans le sud de la France. Depuis 2007, l'association France Bouty fait revivre cette pratique ancestrale de broderie en relief qui attire d'année en année de plus en plus de curieux. Pour faire découvrir cet art, elle organise un salon national qui aura lieu les 16, 17 et 18 mai au centre Saint-Exupéry de Caissargues dans le Gard. Anne-Claude Pantel est la présidente de l'association France Bouty. On l'écoute au micro de Naïma Servès, journaliste de Delta FM.
Cette association a été créée en novembre 2007 par 4 passionnés de Bouty. Et ces 4 dames-là s'étaient rendues compte qu'en France, le Bouty n'était pas que chez nous en Provence. Il y avait des boutisseuses en France et elles ont décidé de créer un lien. Et ce lien passe par une revue qu'elles avaient intitulée et qui s'appelle toujours Le Fil Blanc. Et c'était une revue qui était au départ de quelques pages pour expliquer la technique du Bouty pour toutes les personnes qui n'étaient pas sur place et qui n'avaient pas d'association de Bouty.
Qu'est-ce que le Bouty exactement?
Alors le Bouty, on peut l'appeler, c'est de la broderie en relief. C'est-à-dire que le Bouty, la technique du Bouty, c'est 2 épaisseurs de tissu qui sont reliées entre elles par des points, soit avant, soit du point de piqûre. On suit un dessin et quand tout est terminé, on retourne l'ouvrage et à l'envers, entre les 2 épaisseurs de tissu, on glisse des mèches de coton pour donner plus ou moins de relief.
Ça date de quand le Bouty en France?
Le premier Bouty a été découvert à peu près au XIIIe siècle. On l'appelle le Tristan et Iseux. C'était l'histoire du Tristan et Iseux qui avait été faite en Sicile. C'était un peu plus à la méthode un peu trapunto, c'est-à-dire que les tissus étaient beaucoup plus lâches. Derrière, il y avait de la toile à beurre. Et on bourrait vraiment avec de ce qu'on avait, c'est-à-dire de la mèche de coton, du crin, voilà. Et quand on a découvert ça, on s'est dit que pourquoi pas essayer de voir comment c'était fait d'abord. Donc ça a été décomposé, ça a été fait, et puis c'est arrivé sur Marseille par la Méditerranée, parce qu'il faut savoir que Marseille, c'était un port très très important sur la Méditerranée. Marseille était une zone franche, donc toutes les cotonnades qui venaient d'Égypte, de Syrie, pouvaient passer par Marseille. Et donc à la suite de ça, des ateliers se sont ouverts. C'était des ateliers de brodeurs, parce que c'était les brodeurs futainiers, cotonniers. C'était beaucoup des hommes qui travaillaient. Ils ont recréé cette technique d'une façon beaucoup plus raffinée. ils ont travaillé les très très beaux cotons d'Égypte et de Syrie. Ils ont travaillé aussi le lin, parce que le lin qui nous venait du nord de la France, hein, donc descendait jusque chez nous, et il y avait des échanges commerciaux qui se faisaient beaucoup à travers le port de Marseille, le port de Beaucaire et tout ça. Et ils ont décidé d'appliquer cette technique de broderie en relief, et ils l'ont fait de façon fine, raffinée. C'est ce qu'on appelait la piqûre de Marseille, parce que c'était fait au point de piqûre, ce qu'on appelle maintenant des fois le point de machine à coudre, pour les dames qui connaissent pas trop. Et c'était quelque chose d'utile. Donc il fallait que ça soit fin, que ça soit léger, que ça soit maniable, qu'on puisse le laver, parce que les machines à laver, ben, ça n'existait pas. Donc on lavait ça à la cendre, on faisait sécher dehors, donc il fallait que ça sèche vite. Donc c'était surtout un jeu de lumière. Il n'y avait pas beaucoup d'épaisseur comme les boutis que l'on voit maintenant.
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le bouti ?
Avec le bouti, à l'époque, ben, c'était quand même quelque chose de très utile. Si maintenant on le considère comme une pièce, un objet d'art et qu'on n'ose pas trop s'en servir, avant, le bouti, ben, on pouvait faire des pétassons. Alors, comme on dit chez nous, le pétasson, ben, ça servait quand le bébé, on le prenait sur les jambes, on le mettait dessous parce que pampers, les couches, ça n'existait pas non plus. Donc, quand il faisait pipi ou qu'il faisait ses besoins, on ne pouvait pas se permettre de tacher les vêtements qu'on ne lavait pas de façon régulière tous les jours. On avait aussi les chauffoirs. Alors, le chauffoir, c'était une pièce qui était très très utile. Elle était rattachée au rituel de l'accouchement. Après le passage à l'étuve, ça servait à réchauffer. On le mettait sur le ventre, ça réchauffait le ventre de la maman qui venait d'accoucher. Et ça aidait cette chaleur à décoller le placenta. Il y avait aussi ce qu'on appelait les toilettes. Donc les toilettes, ça se mettait sur les tables de toilettes, les commodes. Et ces dames de la haute société, ben, le soir, elles déposaient leurs colifichets, leurs onguents, tout ça. Et on refermait tout pour le protéger la nuit. Et le lendemain, ben, on rouvrait et on récupérait tout ça. Voilà.
Vous réalisez au quotidien plein de choses pour cette association France Bouti. Et vous organisez donc le deuxième salon national du Bouti. Ce sera les 16, 17 et 18 mai au centre Saint-Exupéry à Quessarc. C'est le deuxième salon. C'est quand même une première ici en France, ces salons de Bouti.
Le salon du Bouti, vraiment Bouti à l'état pur, n'existait pas avant. Il y a des salons d'art textile en général, mais spécialisés dans le Bouti, il n'y en avait pas. Donc on a décidé de créer ce salon pour que justement toutes les boutisseuses puissent se retrouver. Donc ben, il y a 2 ans, c'était le premier salon. Sur 2 jours et demi, nous avons eu 1500 entrées, nous avons eu des associations qui venaient de toute la France. Il y a des dames qui ont fait l'aller-retour Lille, Nîmes, en train, en TGV pour venir au salon. Et tout le monde peut toutes les boutisseuses passionnées se retrouvent là parce qu'elles savent qu'elles vont retrouver, ben, des associations de boutis, des commerçants, des créateurs. Tous les créateurs sont là, ils ont tous répondu présents. Et cette année, ben, les créateurs, ça augmente un petit peu plus. Voilà, donc dans le salon, on sera peut-être un peu plus serré que la première fois.
Retrouvez toute la programmation du second salon national du Bouti sur le www.franceboutis.canalblog.com.
Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Ainsi s'achève ce carnet de région, le magazine d'actualité que vous propose des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, c'est Radio Lodève qui en assurait la rédaction en chef. Je vous souhaite un très très bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.